avec Benoît Marchal.
Bienvenue pour le 112e épisode de Déclencheur.
La photo, comme vous ne l'avez jamais entendu.
Trois segments dans cet épisode, comme d'habitude. L'édito, qui est consacré à un premier bilan sur le Wikinews. Le segment principal, consacré au trépied et au monopied. Et le troisième segment, avec vos commentaires et vos réactions. Retenez dès à présent l'adresse du blog www.déclencheur.com. C'est là que vous pourrez vous abonner, et on supporte de nombreuses méthodes d'abonnement, y compris l'abonnement iTunes, l'email et tous les agrégateurs RSS. Vous pouvez écouter les épisodes directement depuis le blog, mais il est bien plus facile de les copier sur un iPod, un baladeur MP3, un téléphone multimédia, ou de graver un CD pour les écouter en voiture, en train, en métro, en reportage ou en faisant du shopping. Premier segment, l'édito, qui sera très court puisque c'est un premier bilan du Wikinews. Après une semaine, je serai forcément bref, ça démarre très bien. Si vous avez raté l'annonce, Wikinews est un espace sur le blog pour partager nos expériences sur le matériel photo. C'est un wiki, donc toutes les pages sont éditables. L'idée est de compléter des tests qui se font par ailleurs en réunissant sur le Wikinews des informations, je dirais, plus terrain. À l'occasion du lancement, on a reçu le soutien de Kata, d'Erol, de Seal et de Microsoft qui nous ont prêté ou qui nous ont offert divers produits et on a déjà près de 30 volontaires pour les tester. Ce sont surtout les livres qui ont été populaires, et comme il y a beaucoup de livres, en fait, à l'heure où j'enregistre ceci, il reste à peu près tous les produits. Donc il n'est pas trop tard pour vous inscrire si vous êtes intéressé. Et puis je le répète, vous n'êtes nullement limité à cette liste, sortez un produit de votre fourre-tout et partagez votre expérience. On a déjà des comptes rendus sur des livres, divers logiciels de traitement de bruit, le Canonéos 400D et des flashs. Pour clôturer cet édito, la plateforme technique est nouvelle. On passe d'un moteur développé en interne à un produit. Pour les plus curieux, il s'agit d'Expression Engine. Globalement, j'en suis content. Je vais d'ailleurs petit à petit l'étendre à l'ensemble du blog parce qu'il y a de nouvelles fonctionnalités qui seront vraiment intéressantes. Mais comme tout changement, il y a parfois des petits bugs. Et donc, si vous avez un souci, s'il vous plaît, ne restez pas silencieux. Contactez-moi via le formulaire de contact pour m'aider à stabiliser la plateforme. Je vous rappelle l'adresse www.déclencheur.com et vous cliquez sur Wikinews. Deuxième segment, une rencontre avec David Serdimet, le directeur général de Bogen Imagine France. On va parler bien entendu des trépieds et des monopieds. Vous savez que le trépied c'est un outil que j'aime bien, je le recommande sans aucune limite. Et en réaction, vous m'avez au fil du temps adressé toute une série de questions. Et puis plus récemment, vous m'avez demandé de préciser les différences entre trépied et monopied. Je crois que cette rencontre avec David va répondre à toutes ces questions. À la fin de la discussion, vous entendrez qu'on parle de quelques photos qui illustrent les manipulations. Ces photos sont accessibles bien entendu depuis www.déclencheur.com. Juste avant de laisser partir la bande, un petit coucou à Julien de Miss Numérique qui nous a mis en contact avec David. Donc, on est chez Bogen Imagine avec David Serdimet. Bonjour David.
Bonjour.
Donc Bogen Imagine, c'est vrai que c'est pas la marque la plus connue du grand public, mais si on cite les marques commerciales sous lesquelles vous êtes connu, ça va faire Manfrotto, Jizo, Avenger, Kata, donc qui sont des marques un peu plus connues des photographes. Et puis vous êtes aussi, si je ne me trompe, le distributeur de Photoflex, Seconic et quelques autres marques de ce genre-là. Est-ce que c'est correct ?
Oui, c'est correct. Oui, c'est tout à fait ça.
Comment est-ce qu'on va réfléchir l'achat d'un trépied, ou d'un monopied d'ailleurs ? Il y a des gammes, au final, énormes, pour ce qui semble être un accessoire tout simple. Comment est-ce que vous percevez les différents critères et les différents éléments de choix ?
En fait, il y a plusieurs critères. Le choix principal et de départ doit toujours être, en fait, le type de caméra qu'on veut mettre dessus, et en fait, le poids, en fait, la masse de l'équipement. Alors évidemment, une fois qu'on a choisi le type d'équipement que l'on veut utiliser, viennent en fait s'associer à un certain nombre de critères par rapport à l'utilisation. Est-ce qu'on doit être en déplacement, plutôt en studio ?
Pour être un peu plus concret, le poids, ça veut dire en final reflex compact ou ça veut dire même dans ces gammes-là, il y a encore des sous-catégories ?
Non, en fait, on peut utiliser des trépieds à partir du compact de base, c'est-à-dire du plus léger. Le but du trépied, il est toujours le même. C'est d'obtenir une stabilité de la caméra et d'obtenir une image la plus nette possible. Donc de remplacer en fait l'homme et le côté en fait instable que l'on peut avoir malgré le fait qu'on pense qu'on a des objectifs qui sont en théorie maintenant électroniques et qui peuvent être stabilisés eux-mêmes en fonction de la focale, en fonction de la distance, en fonction du mouvement de la personne qui tient l'appareil photo, il y a toujours des petites défaillances. Donc le trépied lui est la seule partie qu'on peut avoir au niveau de l'appareil photo pour pouvoir stabiliser l'ensemble. Les trépieds, quelle que soit leur marque et la façon dont ils sont construits, on va dire qu'il y a trois grandes catégories. Il y a les trépieds pour des appareils photo de moins de 1 kg, donc compact, bridge. Et puis après, on va avoir des trépieds en fait, pour les appareils photo qui vont de 1 à 5 kg. Et puis, la catégorie supérieure, on rentre en studio pour tout ce qui est moyen format et appareil à longue focale.
Première étape, si j'ai bien compris, c'est le type d'appareil qu'on va vouloir mettre dessus.
Voilà, le poids admissible, en fait.
Ça, ça comprend l'appareil, le boîtier, plus ses objectifs.
Plus les accessoires qui vont être dessus. Alors, bon, quand on parle d'un compact ou d'un bridge, c'est uniquement l'appareil photo. Quand on commence à rentrer sur du réflexe numérique, là, on va avoir deux éléments à prendre en compte. Un, la focale que l'on va utiliser dessus, parce qu'un trépied qui est totalement adapté à un appareil photo numérique réflexe équipé d'un 50 mm et celui qui devrait être utilisé lorsqu'on utilise ne serait-ce qu'un 200 ou un 300 va être totalement différent. C'est-à-dire qu'on peut être limite au niveau des poids. On va devoir quand même s'assurer qu'on peut immobiliser l'appareil photo dans la position désirée, surtout en macro par exemple, sans pour autant qu'il bouge. Il est aussi important de s'assurer que le trépied que l'on utilise va être capable de maintenir l'appareil photo dans sa position, même si l'appareil photo est un petit peu dans une position tridimensionnelle et pas spécialement dans l'axe du trépied.
Premier critère, la masse de ce qu'on va leur mettre dessus. Deuxième critère.
Alors, le deuxième critère de choix d'un trépied, en fait, va venir, comme je le disais tout à l'heure, au niveau utilisation. Donc, c'est plutôt des critères de dimension. C'est-à-dire qu'une personne d'1m80 ne va pas pouvoir utiliser totalement les mêmes trépieds qu'une personne qui fait 1m70. Ça paraît bête à dire, mais c'est important parce que la hauteur du trépied est importante et ils ne font pas tous les mêmes hauteurs. Ça, c'est un des éléments qui est à prendre en compte au départ, parce que tous les trépieds, par exemple, présentent des colonnes qui sortent. Le gros problème de la colonne, c'est qu'au départ, on choisit un trépied pour sa stabilité. Mais lorsque l'on sort la colonne à 100%, en fait, on recrée des perturbations sur le trépied, on se retrouve avec des problématiques de fonctionnement. Donc là, on va avoir une utilisation, je dirais, au niveau du test, de s'assurer qu'on peut l'utiliser de façon optimum, avec une colonne ressortie de 50%, ce qui est en général la norme. Parce que là, on garantit le fonctionnement.
Effectivement, bon, la colonne va faire perdre de la stabilité. Dans ce cas-là, puisqu'elle fait perdre de la stabilité, pourquoi est-ce qu'on la met sur les trépieds ?
La colonne, à quoi elle sert ? Elle sert en fait, d'une part, à pouvoir avoir une certaine adaptabilité de la hauteur, puisqu'on ne peut pas faire des trépieds pour chaque personne. Donc on est obligé d'essayer de trouver quelque chose qui fonctionne à une vingtaine ou une trentaine de centimètres près, donc ça nous donne une possibilité d'adaptation. Le deuxième point, c'est que sur certains trépieds, en l'occurrence, on va avoir des colonnes qui sont orientables. Donc la colonne peut avoir, sur certains trépieds, des fonctionnalités supplémentaires. Bon, la colonne sert aussi quand même de point de fixation au niveau des rotules, puisque le but premier étant d'avoir un trépied qui soit adaptable à différents types de photographies. Il faut qu'on puisse, dans la mesure du possible, adapter la rotule au type de photographie que l'on veut faire. Le trépied est composé d'une rotule et du trépied. On parle toujours du trépied. Il existe trois types de rotules, des rotules ball, des rotules trois axes, en l'occurrence, des rotules joystick. Mais si on reste sur les deux grands modèles de rotule ball et de rotule trois axes...
Donc la rotule trois axes, c'est la rotule pour situer. La rotule trois axes, c'est la rotule en finale qu'on trouve sur énormément de modèles en magasin.
Sur
c'est
la plupart,
celle qui se déplace avec trois axes complètement
avec
indépendants.
Avec trois, en général, où il y a trois manettes qui vont permettre de désaxer ou de positionner l'appareil photo donc tel que l'on le souhaite.
Alors que la boule, c'est, comme le nom le dit, une boule et l'appareil est monté au-dessus et en un seul mouvement, en fait, on peut le déplacer.
C'est ça.
Dans toute
Alors, là, on déverrouille, entre guillemets, la boule et on manipule directement, en maintenant l'appareil photo. Sur une rotule trois axes, en fait, tant qu'on ne fait pas le shoot, on manipule la rotule directement au niveau des manettes pour prépositionner l'appareil photo. Alors, c'est important à dire parce qu'en fait, en fonction du type de photographie, si on fait de la photographie sportive, si on fait de la photographie animalière, donc tout ce qui est un petit peu en mouvement, on va avoir plutôt tendance à essayer d'aller vers une rotule ball, de façon à ce que, malgré le fait qu'on utilise le trépied pour s'assurer une bonne stabilité, on va vouloir quand même avoir de la dynamique et être capable de se positionner très rapidement. Donc là, en fait, la rotule va nous permettre de rester dans un axe, de se positionner et de shooter rapidement et de changer d'axe. Sur une trois axes, ça va être parfait pour faire de la macro. Alors là, c'est la rotule de prédilection. Donc il est important, en fait, d'avoir un trépied où on peut interchanger ses têtes, puisque... Par définition, on fait un petit peu de tout et de pouvoir en fait adapter la tête au type de photographie que l'on fait.
On est arrivé aux rotules parce qu'on est parti de la colonne. On parlait de la colonne parce qu'on parlait de la hauteur du trépied.
Oui.
Le test à faire en magasin ou simplement en regardant le catalogue, c'est, si je ne me trompe, qu'on puisse placer l'appareil photo à la hauteur des yeux.
À peu près à la hauteur des yeux, de façon à éviter d'être complètement plié pour prendre les photos. La base est là. Maintenant, l'homme étant ce qu'il est, avec la plage de variation qu'on peut avoir au niveau des hauteurs entre chaque personne, entre 1m50 et 1m90, si on enlève les extrêmes, il est vrai qu'on aura rarement la position parfaite. Il faut qu'on puisse s'en approcher de façon quand même à ne pas se retrouver dans une situation où on doit shooter dans une position qui ne soit pas agréable.
Donc on a discuté de la hauteur, on a discuté du poids,
admissible.
Du poids admissible. Troisième critère ?
Le troisième critère, ça va être le prix. Si on regarde au niveau du marché, Le trépied, il commence en gros à une vingtaine d'euros et il va jusqu'à 1000. Et c'est là où il reviendra un petit peu à l'acheteur potentiel, je dirais, d'arbitrer entre les avantages que peut nous apporter un trépied d'une certaine matière par rapport à son prix et la stabilité qu'il pourra nous apporter.
Moi, j'ai un peu tendance à dire que si on a un problème pour le budget,
oui,
plutôt que d'acheter... Alors, je parle ici pour un réflexe, parce que le problème est bien moindre pour un compact, que les appareils sont légers, il n'y a pas de miroir, etc. En final, on peut, à mon avis, utiliser des trépieds de plus d'entrée de gamme avec. Mais j'ai tendance à conseiller, si on ne sait pas s'acheter un trépied stable, efficace, dans la taille désirable, il vaut mieux se rabattre sur un trépied de table qui sera stable, une bonne qualité, qui coûte assez cher d'ailleurs quand on les prend dans une qualité suffisamment stable, pour avoir justement cette stabilité. Qu'est-ce qu'on cherche ? Et en se disant, on trouvera toujours bien quelque part une table ou un objet sur lequel déposer le trépied et donner la hauteur voulue, privilégiant la stabilité sur autre chose. Avec un deuxième avantage, je trouve, ça on va l'emmener. Parce que le meilleur trépied, en final, c'est le trépied qu'on a sur soi quand on fait des photos.
Voilà, c'est un peu la remarque générale que l'on peut avoir, nous, dans le métier. Le deuxième élément étant très important, c'est-à-dire qu'en clair, si on achète un trépied, c'est pour l'utiliser. C'est pas pour l'utiliser une fois et le laisser à la maison, un, parce qu'il est trop lourd, ou deux, parce qu'il est pas suffisamment stable. Le trépied, comme on le disait au départ, son avantage principal, c'est la stabilité. Donc c'est là où tu as tout à fait raison dans ce que tu disais, c'est que si on ne veut pas choisir...
Ou si on ne peut pas.
Ou si on ne peut pas choisir un trépied de la bonne hauteur, que ce soit pour une contrainte de prix, que ce soit pour une contrainte tout à fait haute, puisque... pour trouver d'autres, hein. Il vaut mieux prendre un trépied stable, c'est préférable, qui fasse une trentaine de centimètres de haut. On est sûr que le trépied sera stable et que l'appareil photo sera stable. Sa fonctionnalité sera respectée. Mm-hmm. Par rapport à utiliser un trépied peut-être un peu moins cher ou au même prix, mais qui n'assurerait pas donc la stabilité.
Au même prix, mais plus grand.
Au même prix, mais plus grand. Parce que tout simplement, les matériaux par eux-mêmes ne permettent pas d'assurer une stabilité optimale sur une certaine hauteur. Notamment au niveau du plastique, qui sont les entrées de gamme, où en fait les fonderies n'existent pas. Et c'est vrai qu'on a des matériaux qui, par défaut, ne sont pas des matériaux très rigides. À première vue, un des facteurs clés actuels du marché, c'est d'essayer de trouver un trépied avec un poids, une masse la plus faible possible, entre guillemets, tout en ayant en fait des tubes d'une section suffisante pour assurer de la stabilité, donc de là l'utilisation du carbone, mais qui puisse accepter des poids donc d'appareils photo et d'équipement, si on met un flash cobra ou choses comme ça, important. Et on va plutôt choisir donc des matériaux qui sont de l'aluminium ou du basalte ou du carbone, je dirais dans l'ordre de décroissance de poids. Donc nous, ce qu'on fait quand on dessine de nouveaux trépieds, hein, le choix de départ, c'est le matériau. Là, je ne parle pas de construction par lui-même, mais de matériaux. Là, on est en train de parler de matériaux pour les jambes des trépieds. Et là encore, il y aurait tout un sujet très puissant à faire sur qu'est-ce qu'est le carbone et les différents alliages qui existent de carbone. Mais en l'occurrence, pour tenir les trois jambes, il faut des fonderies. Et là encore, il y a un certain nombre de choix qui peuvent être faits, nous, en interne, au niveau des matériaux, puisque on utilise de l'aluminium ou du magnésium, et dernièrement, en fait, du titanium. Donc toujours pour diminuer le poids du trépied. Donc c'est là où on va pouvoir après comparer un petit peu, je dirais, pour l'utilisateur, où il va pouvoir se dire, tiens, pourquoi est-ce que je choisirais plutôt cet équipement-ci ou cet équipement-là ? C'est de se dire, j'ai un produit, en prenant un exemple typique, j'ai un produit qui pèse 1 kg et qui peut prendre 8 kg, ou j'ai un produit qui pèse 2 kg et qui peut en prendre 3.
Oui, donc pour comparer l'exemple, c'est vraiment très frappant. Le trépied pèse 1 kg et peut en porter 8.
Tout
à fait. Le trépied pèse 2 kg et peut en porter que 3. Ça paraît étonnant de se dire, tiens, le trépied le plus lourd va pouvoir porter moins.
Voilà, et ça peut même être pire. Donc c'est vrai que c'est important à prendre en compte parce que les technologies ont tellement évolué, en fait. Les façons de construire, notamment les boules, maintenant sont devenues vraiment optimisées. Et sur une rotule, en l'occurrence, on arrive maintenant à avoir des rotules dont le poids, la masse a diminué drastiquement de façon à permettre de les utiliser avec 3-4 kilos dessus sans aucun problème.
Est-ce qu'il y a une demande nouvelle ?
Oui, la demande est nouvelle.
Nouvelle en termes de quantité ?
Alors, nouvelle en termes de produits, tout à fait. C'est-à-dire que les gens maintenant utilisent des appareils photo de plus en plus, je dirais, technologiques. Et comme tout utilisateur, donc utilisant de l'informatique et autres, est habitué au renouveau et à avoir des nouveaux produits qui apportent de nouvelles fonctionnalités. Donc là, oui, la demande change. J'en parlais tout à l'heure au niveau des matériaux. Mais il y a un élément aussi très important qui est que le besoin existait auparavant au niveau des trépieds. Il continue d'exister. Là où tu as raison, c'est qu'il y a une nouvelle demande dans la mesure où il y a beaucoup de nouvelles personnes qui rentrent sur le marché aujourd'hui et cette année pour s'acheter un trépied. C'est-à-dire qu'ils vont s'acheter un nouveau numérique réflexe pour la première fois. Toutes ces personnes-là sont des personnes qui n'ont jamais utilisé un trépied.
ça se traduit concrètement chez vous par une croissance de la demande? Je veux dire, il y a plus de gens qui veulent un trépied maintenant ou c'est, alors, c'est un renouvellement de gamme ou...
Il n'y a pas plus de gens qui veulent un trépied maintenant qu'auparavant, certainement en pourcentage. Bon, c'est très difficile à dire, il n'y a pas d'études, on n'est pas sur des marchés si grands comme l'automobile, etc. Voilà. Donc on n'a pas des études très précises.
Déjà, la photo est considérée comme un petit marché.
Comme un petit marché, dedans, donc c'est... le trépied intérieur. Bon, le trépied est important, le trépied quand même dans les cinquièmes choix, juste après l'achat de l'appareil. Mm-hmm. Donc ce n'est pas un achat du premier jour, c'est un achat du deuxième jour quand on revient. Ça veut dire qu'il y a un intérêt réel pour le trépied et un besoin.
Mm-hmm. À côté de la gamme trépied, vous avez une énorme gamme de produits studio. Les pieds pour lampes, etc. Naïvement, on pourrait se dire, tiens, mais en final, pourquoi est-ce qu'on doit payer le trépied de l'appareil photo plusieurs centaines d'euros, alors que pour 70 euros, 50 euros, on a un excellent support de lampe qui, quelque part, sert à faire la même chose. Il sert à le tenir, à tenir la lampe, et on ne veut pas que la lampe bouge quand on est dessus. Comment est-ce qu'on explique cette différence de prix?
Par la construction. C'est-à-dire que quand on regarde la construction d'un trépied d'éclairage et la construction d'un trépied photo, on n'a pas du tout le même produit. Ça ressemble, quand on le regarde de loin, ça a trois jambes.
Ça a trois pieds,
ça a trois jambes et ça a une colonne. Ceci dit, quand on regarde ça d'un peu plus près, on a des éléments qui, mécaniquement parlant, sont beaucoup moins précis. Donc, au niveau construction, au niveau fabrication, il y a des impératifs qui sont différents. Tu disais que la lampe ne doit pas bouger, c'est un fait. Ceci dit, on ne la tient pas toutes les deux minutes, on ne la bouge pas, ce qui est le cas de l'appareil photo. Une petite oscillation sur le pied d'éclairage ne va pas avoir une grande influence sur le résultat lumineux. Mmh. Bon, il ne faut pas oublier aussi qu'il n'y a pas de tête, il n'y a pas de rotule sur un pied d'éclairage, il y a une vis.
Une autre question qui, je sais, les auditeurs veulent absolument que je pose parce qu'ils me la demandent régulièrement, trépied ou monopied?
Alors, trépied ou monopied? Là, on se retrouve uniquement dans une situation, je dirais, d'utilisation. C'est-à-dire que là, c'est vraiment le photographe, la personne qui va aller chercher le produit dont elle a besoin, qui va devoir choisir entre l'un et l'autre. Tout à l'heure, on parlait de choix technologiques, on parlait de choix un peu basés sur le prix parfois, donc d'essayer d'arbitrer. Là, l'arbitrage va être purement au niveau de la solution que l'on apporte avec un monopied et un trépied et de ce que la personne veut faire. Et on pourrait comparer et faire un large travers avec la discussion que nous avions auparavant sur les rotules, puisqu'en fait, le trépied, c'est la stabilité optimale. Si on veut être synthétique, c'est ce que l'on recherche. Au niveau du monopode, l'idée est un petit peu différente. On cherche quelque chose qui permette en fait de se positionner et de s'appuyer sur le sol. On cherche à être stable, on ne cherche pas à être fixe. Là, les mots sont importants. Mais on cherche à avoir un point fixe que l'on va déplacer nous-mêmes en manipulant la caméra, tout en étant toujours en fait en appui. Alors le monopode, il a ses utilisations, je dirais, qui sont typiques, qui peuvent être dans deux cas. Un, tout ce qui est, je dirais, photographie de sport, là où la rapidité est importante, donc de suivre les événements. La photographie animalière, donc là encore, on a du mouvement. Donc tout ce qui est lié, entre guillemets, au mouvement. Et la deuxième chose, c'est lorsque on aimerait avoir un trépied, mais que techniquement parlant, on ne peut pas, pour des raisons purement de poids, puisqu'en fait, là, on se retrouve avec quelque chose qui va peser 500-600 grammes, que l'on va transporter, au lieu d'avoir quelque chose qui va peser entre 1 et 3 kilos. Sur 10 minutes, c'est pas gênant, sur une ou deux journées, ça peut avoir son intérêt. Donc là encore, on est toujours dans cet aspect d'arbitrage qui va dire, ok, moins de stabilité, mais beaucoup moins lourd, donc peut-être plus intéressant.
Moi, j'ai l'impression... Et j'ai très peu d'expérience avec un monopied, mais j'ai l'impression que c'est un outil plus spécialisé qu'un trépied quelque part, dans le sens où, comme tu dis, ça apporte un complément de stabilité, c'est pratique si on a un objectif lourd, ça le porte au lieu de se fatiguer, etc.
Mmh.
Mais le trépied, on va pouvoir faire énormément de styles de photos différents. Pour, comme on l'a dit, stabiliser, mais on peut aussi s'en servir pour faire plusieurs expositions qu'on va après pouvoir combiner, soit en HDR, soit avec d'autres types de combinatoires. On peut s'en servir pour faire du panoramique. Enfin, il y a une gamme d'utilisation. Alors que j'ai l'impression, le monopied, il ne sert qu'à stabiliser.
C'est un appui. C'est un appui. C'est même pas de la stabilisation optimum, quelque part. Et c'est pas ce qui est recherché ou ce qui doit être recherché dans l'utilisation du monopode. On pourra pas faire de panorama, on pourra pas faire tout ça. Là, tu as tout à fait raison. En revanche, là où on aura besoin de suivre un mouvement, mais d'utilisation, comme tu le disais tout à l'heure, avec une lampe focale par exemple, quand on utilise une lampe focale pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, si on essaie d'utiliser ça manuellement, c'est lourd. Et lorsque l'on se meut en forêt par exemple, ou dans des terrains, ou de toute façon le trépied, on ne peut pas le mettre en œuvre très facilement, le monopode, on va le poser, On n'est même pas obligé complètement de le replier. En fait, on peut se déplacer, le reposer. Donc, c'est un point d'appui. Il faut bien le regarder comme un point d'appui. Le monopode ne remplace pas le trépied. Je dirais que pour reprendre une expression un petit peu habituelle, il ne faut pas considérer le monopode comme le trépied du pauvre. Mmh. C'est pas du tout la même utilisation.
On est d'accord que si on est photographe de sport, bah, a priori, comme tu viens de le dire, on va souvent être dans des situations très dynamiques. Mais pour le photographe amateur, qui est plus souvent un touche-à-tout qu'un spécialiste, est-ce que ça a de l'intérêt d'acheter un monopied ? Est-ce qu'il vaut mieux, choisir un des deux, est-ce qu'il vaut mieux prendre le trépied ou le monopied ?
Alors c'est là où c'est important de replacer ça dans le contexte de quel photographe. Donc si on oublie toutes les situations particulières où le monopode est parfaitement adapté, et qu'on regarde le cas général, au départ, en théorie, il vaut mieux avoir un trépied et prendre le monopode en produit additionnel. Parce qu'on en aura besoin dans certaines conditions, mais le trépied par lui-même permettra de faire 95-98% des photos qu'on a besoin de faire. Le premier achat de notre côté, de toute façon, et on le voit, le premier achat, c'est le trépied. Le monopode vient derrière.
Ce qui est amusant, évidemment, avec ces accessoires, c'est de voir comment on s'en sert. On a réalisé quelques images dans lesquelles tu nous montres comment le trépied s'utilise et le monopied s'utilise. On va un petit peu les commenter, on va voir les points importants.
Alors là encore, c'est un point important parce que c'est vrai que tous les trépieds sont construits, si on les regarde, donc sur trois jambes, hein, si on prend le concept de base, un double pied, trépied, mais chaque trépied va avoir en fait un certain nombre de sections différentes. Alors la question intéressante, c'est pourquoi ce nombre de sections, je dirais trois ou quatre sections. Un, plus on a de sections, plus il va être court quand il est replié, donc c'est important pour l'utilisation. Mais surtout, ça va permettre en fait d'adapter en jouant sur la hauteur de chaque jambe, en fait, de pouvoir rattraper un dénivelé sur un sol ou de pouvoir se positionner pour certains trépieds carrément à 90 degrés et de se poser sur une surface plan avec une des jambes et de positionner les deux jambes à l'extérieur. Ça va nous donner une versatilité de façon à assurer, je dirais, une position optimale.
Alors, la position optimale, le cas de figure simple, c'est le bureau. Quand on est dans un bureau, le sol est plat, on déplie simplement en tirant les trois jambes.
Voilà.
Si par contre on est en forêt, si on est dans un entrepôt, là où il va y avoir effectivement des dénivelés, etc., qu'est-ce qu'on doit viser comme objectif ?
L'idée de base tout de même étant d'avoir le plateau du trépied donc à l'horizontale, hein, parce qu'au départ tout se fait à partir de l'horizontale, dans la mesure où tous les pieds maintenant permettent justement après de se positionner comme on le souhaite pour la photo. Mais au départ, l'idée, c'est de se positionner à l'horizontale. Donc, c'est pour ça que nous, par exemple, on utilise des bulles. Donc, il y a des bulles sur les trépieds, de façon à ce qu'on puisse s'assurer, une fois que le trépied est positionné, je dirais, alors là, où les jambes sont positionnées là où il faut pour assurer cette horizontale, qu'on va se retrouver avec la masse de l'ensemble dans l'axe, c'est-à-dire avec un centre de gravité bien positionné, de façon à éviter justement tout basculement. Et au niveau de l'utilisateur, en fonction des positions, puisque l'utilisateur peut aussi mettre le trépied dans une position un petit peu scabreuse, il y a des accessoires qui existent, je dirais là, quel que soit le trépied, il est parfois nécessaire d'utiliser un petit contrepoids de façon à s'assurer de la stabilité du trépied. Le trépied par lui-même, si la caméra a été déportée totalement de 70 cm à l'extérieur du trépied, même si elle se tient, il suffirait d'un petit coup de vent ou autre pour que l'axe soit vite perdu, en fait l'équilibre soit vite perdu. Donc il faut quand même rester dans des choses admissibles et possibles. Il est toujours très facile de mettre quelques trépieds que ce soit dans une situation où à un moment donné, il va tomber.
Deux questions. Quand tu dis horizontale et des jambes se positionnent là où elles peuvent, ça veut dire qu'on peut avoir une jambe plus courte, une jambe plus longue, une jambe plus,
voilà,
plus écartée.
Exactement. Si on se retrouve, on va imaginer qu'en fait deux pieds et une petite bosse au sol, il y en a deux qui vont peut-être être au maximum, donc avec le trépied ouvert au maximum. Et puis la troisième jambe, par exemple, va être dépliée suffisamment pour pouvoir venir reposer sur cette petite bosse tout en assurant un plan horizontal de base.
Et alors quand tu dis plan horizontal de base avec le niveau à bulle, on s'inquiète, ça veut dire qu'il faut vraiment impérativement que la bulle soit bien, bien, bien au centre, ou plus un guide en se disant, ok, il faut d'éviter de trop décaler, mais alors, on rattrapera avec la boule.
Tout dépend encore de l'utilisation finale. Si on est dans un cas d'une photographie macro, par exemple, on va essayer de bien se positionner à peu près centré de façon à avoir un centre de gravité bien placé, ce qu'on disait auparavant, et puis après, on va rattraper et on va prendre la position que l'on souhaite. Si on souhaite faire un panorama, on va essayer de se positionner parfaitement au départ, parce que plus notre plan en fait de référence sera plat, avec tous les accessoires qu'on va utiliser pour faire du panoramique, plus notre panoramique sera parfait.
Bon, le monopied maintenant. Et la manip du monopied. Parce que si le trépied, on voit bien que le concept c'est d'écarter les trois jambes et il va être stable tout seul, le monopied, on n'a qu'une seule jambe. Comment est-ce qu'on fait pour assurer le maximum de stabilité ?
Alors voilà, le monopied en fait a une utilisation un peu particulière. C'est-à-dire que là, on ne cherche pas en fait à le prépositionner. La fonctionnalité du monopied étant de le poser au sol. Là, il y a un des éléments dont on a parlé tout au départ qui est très important, qui est la hauteur du monopied. C'est-à-dire que autant sur un trépied, puisque l'appareil photo est stable et prépositionné, on peut se permettre de plier un petit peu les genoux de façon à s'adapter et prendre la photo que l'on a besoin. Sur un monopied, ce ne sera pas possible. Parce qu'il faut vraiment qu'on soit, nous, directement à la bonne hauteur pour pouvoir photographier. Donc, un élément principal de choix du monopied, en l'occurrence, c'est de prendre la bonne hauteur. Donc, il faut qu'on arrive à hauteur des yeux. Deux, sur un monopied, il n'y a pas de... En général, on peut l'utiliser, mais on n'utilise pas de rotule. Pourquoi ? Puisque le monopied est une rotule par lui-même, c'est nous qui en assurons le mouvement. Donc je dirais que là, l'utilisation est assez basique, puisqu'on manipule l'appareil photo, si on est droitier bien évidemment, avec la main droite sur le boîtier, avec la main gauche pour stabiliser en position. Donc ça, c'est la façon de manipuler correctement un monopied. Et puis après, je dirais qu'un des avantages du monopied par rapport au trépied, c'est que le monopied souvent s'en sert pour le porter, c'est-à-dire pour porter l'appareil photo et pour l'immobiliser. On peut porter donc le monopied à une main pour éviter de supporter donc une longue focale ou des choses comme ça. Mais à l'utilisation, donc les deux mains sont utilisées, ce qui n'est pas le cas en général sur un trépied.
Ok, bah écoute David, merci de avoir accordé tout ce temps-là.
Pas de problème, ça m'a fait plaisir.
Je sais que c'est des questions qui étaient fort demandées, donc j'espère
qu'on aura su y répondre.
Troisième segment, vos commentaires et vos réactions. Je commence par l'agenda pour vous annoncer que nos amis les Pixelistes organisent en ce moment un grand concours photo pour fêter leurs 10 millième membres. Leurs 10 000 membres, c'est tout simplement incroyable. Il y a de très beaux prix à gagner, dont un cool Pix. J'adresse toutes mes félicitations à Marc et à toute son équipe pour avoir atteint les 10 000 membres. Les commentaires maintenant. Pour laisser un commentaire, vous pouvez visiter le blog www.déclencheur.com. Vous pourrez laisser un commentaire texte gratuitement ou un commentaire audio à l'aide d'une boîte vocale. Des messages d'encouragement reçus d'Éric, Thomas, Christine, Nico, Speedfrog, Florent et Antoine Magnier. Merci à vous, ces notes d'encouragement sont le carburant qui soutiennent la passion. On continue avec les commentaires sur la rencontre avec Bernard Perrine, qui visiblement vous a enthousiasmé. D'abord une réaction de Luc Saint-Élie qui insiste sur le fait que le photographe est un super canard, et là on est tout à fait d'accord. Gérald Géronimi réagit en disant qu'attention, si faire de belles images est effectivement devenu plus accessible, les faire sur commande c'est autre chose. Sur le fond, je suis plutôt d'accord, mais je crois que c'est le problème que Bernard mettait en lumière. Si le marché n'est pas du même avis, il y a quand même un problème. Et je crois que c'est aujourd'hui un des défis des photographes professionnels que d'arriver à convaincre leurs clients de leur valeur ajoutée, si je puis dire. Mon édito sur le Canon G9 a aussi suscité pas mal de réactions d'auditeurs qui se reconnaissent dans le besoin d'un appareil photo différent, avec des réactions en ce sens de RSA Godzilla, Gérald Géronimi et Erwan. Quant à Photoman, il nous rappelle que Ricoh a également des produits intéressants avec le GRD. J'en profite pour vous signaler que Posté a encore quelques GRD1 en stock à un prix très réduit de 299€. Vous en profiterez en passant à la boutique pour goûter leur fameux fondant au chocolat. Bref, ce qui me fait plaisir, c'est que ces réactions montrent que je ne suis pas le seul à avoir ce besoin pour un appareil petit mais qualitatif, à apprécier cet outil pour ce qu'il est et à apprécier son mode de visée spécifique. Et donc j'espère qu'il y a un fabricant à l'écoute qui prend des notes pour nous sortir l'appareil qu'on attend. Un duo qui a suscité pas mal de débats, c'est la réponse de Pentax, annonçant une différence entre les données enregistrées dans leur format RAW, format PEF, par rapport au format DNG. Sachant que, et je le rappelle, Pentax offre les deux formats dans le boîtier. Des réactions à ce duo qui vont de la perplexité à l'incrédulité en passant par l'indifférence. Je reviens dans un instant sur l'indifférence, mais il est clair qu'un complément d'information serait utile à cette étape. J'ai donc remonté vos commentaires à Yazid et il cherche bien entendu cette information pour nous. Rétrospectivement, cette différence entre le PEF et le DNG ne m'étonne pas. Il faut savoir que je travaille dans le commerce électronique B2B depuis 1993 et sur la mise en place de solutions XML, ce qu'aujourd'hui on appelle les services web, depuis 1997. Dans mon travail, j'étais amené à siéger dans divers comités de normalisation, aider des entreprises à adopter des normes et des standards. Et donc mon impression, et je veux bien insister, c'est une impression. En ce moment, je n'ai aucune information spécifique de Pentax, si ce n'est ce que vous avez entendu dans le duo. Eh bien, mon impression, c'est que les données manquantes doivent plutôt être des métadonnées. Je serais très surpris que la matrice de Bayer ne soit pas enregistrée correctement ou complètement. Il est même probable que les métadonnées perdues ne sont pas indispensables, voire pas utiles, aux différents logiciels. En fait, par définition, si elles ne sont pas dans le DNG, la plupart des logiciels doivent pouvoir s'en passer. Une des choses que j'ai appris en travaillant dans la normalisation, c'est que c'est un métier compliqué. Ça paraît trivial, mais en réalité, l'effort est vraiment énorme. Et la première étape, la plus simple, c'est toujours de se mettre d'accord sur les 80-90% de données dont tout le monde a besoin. Ensuite vient l'étape la plus longue. Il faut en fait un vrai travail de fond au niveau de l'industrie, mettre autour d'une table les techniciens à la fois des fabricants de boîtiers et des éditeurs de logiciels. À l'évidence, je crois que la réaction de Pentax le montre, le DNG il en est à la première étape, les 90 premiers pourcents. La question est de savoir est-ce qu'un support industriel est vraiment en train de se mettre en place. Si pour tout ça, cet aspect industriel, etc., d'ailleurs, que la réponse dépasse en finale Pentax, dans le sens où, à mon avis, elle intéressera tous les photographes travaillant en RAW, quel que soit le boîtier. Je vous conseille d'ailleurs la lecture de l'article correspondant sur Focus Numérique, où Renault a très bien situé cette information dans un contexte plus global. Je parlais d'une réaction d'indifférence, je faisais en fait référence à une question spécifique de Flodin, qui se demande si le débat n'est pas un faux débat, après tout il est inutile selon elle de conserver ses RAW, suivi de conserver les JPEG. C'est clair que la plupart des photographes n'ont sans doute pas aujourd'hui un flux de travail basé sur le RAW. Tout simplement parce qu'historiquement on a été obligé de passer par le JPEG ou par le TIFF, parce qu'il fallait amener les photos dans Photoshop. Mais la nouvelle génération d'outils permet vraiment d'utiliser le RAW comme le format de travail. Allez lire l'ensemble de la discussion avec des réactions de Keltia, José, Fabien, Thomas Marcène, Paris, QEMI, TG, Gap, Speedfrog, Christophe, Alain Capera, Mumpat, Adrien et Ludovic. Si on continue les épisodes dans l'ordre, le lancement du Wikinews a fait l'objet de beaucoup de réactions sur le Wiki, d'abord, bien entendu, par email et en commentaire. Globalement, des réactions très positives, ce qui est encourageant. Des suggestions aussi et trois commentaires de Lia Rox, Jean-Yves Gruffat et Topix. Quant à Julien, il suggère qu'on change de nom pour éviter la confusion avec wikinews.org. Dans les commentaires du mini sur le filet, on trouve quelques précisions sur la technique. D'abord Jean-Marc qui fournit des informations supplémentaires en réponse à quelques questions. Sur l'autofocus, il conseille de les laisser en suivi automatique avec le collimateur central. Certes, le cadrage ne sera pas bon, mais il suffit après de recadrer en post-production. Pour réaliser des filets d'oiseaux au lieu de filets de moto, c'est bien entendu possible, mais il faut un oiseau qui plane, une mouette par exemple, parce que si l'oiseau bat des ailes, ce ne sera pas vraiment possible. Fabien suggère un petit truc, déclencher en rafale pour éviter de bloquer son mouvement pendant le suivi. Quant à Bug, il conseille de choisir un endroit où les motos sont rapides pour pouvoir utiliser des vitesses élevées et donc rater moins de photos, en travaillant en fait jusqu'aux 2 centièmes de seconde dans certains cas. Une petite discussion sur l'emploi du flash entre Fabien, Pouc et Jean-Marc. En gros, la conclusion est d'utiliser le flash deuxième rideau et la synchro lente pour que les traînées soient au bon endroit, mais attention, ça risque de figer le fond. Une autre discussion entre Franck Doyen, Jean-Marc, Samuto et Fabien sur l'emploi d'un trépied ou d'un monopied. Bon, il n'est pas clair qu'un consensus s'est dégagé, si ce n'est pour dire que le trépied est inutilisable pour les filets, le monopied peut-être. Quant au mini, il faut une légende avec le cri du cœur de Peter, il a suscité un vrai débat, avec des réactions qui vont dans les sens les plus divers, pour et contre. D'abord, il y a une question qui a été déclenchée à mon sens par le choix de l'illustration, demeurant assez instructif. Je ferai plus attention au choix des illustrations à l'avenir, puisque, alors que Peter parlait plutôt de galerie de photos en ligne, j'illustrais avec une photo où l'on annote un tirage. Et visiblement, c'est un geste qui choque. J'avoue que j'ai pas vraiment compris pourquoi, surtout que j'avais consacré un épisode à cette pratique en avril 2006. Et depuis bientôt 2 ans, personne ne s'est jamais plaint. Alors, 2 mots sur ce que je fais. Pourquoi ? Moi, j'annote toujours au crayon les portraits avec le nom, la date et un petit peu d'informations de contexte. Si vous avez dans votre famille une boîte à photos, eh bien parcourez les photos qui ont plus de, on va dire, 50, 60, 70 ans. Et vous verrez que celles qui ne sont pas annotées, ben aujourd'hui elles ne veulent plus rien dire. Ce sont des gens, ce sont des lieux qui sont inconnus. Et c'est dans ce contexte de mémoire, pour un portrait donc, qu'annoter sur la photo main me paraît être important. Et oui, je me souviens de ce qu'a dit Bernard Perrine, la photo est de moins en moins utilisée comme mémoire de la famille. Mais bon, je parlais de portrait là. Techniquement, il n'était pas vraiment conseillé d'écrire sur les papiers photos traditionnels, mais en jet d'encre, moi je travaille avec des papiers couchés mat, c'est-à-dire essentiellement du papier dessin. Donc si les artistes peuvent dessiner au crayon sur le papier, je vois pas pourquoi mon crayon aura un effet néfaste. Dernière question, et celle-ci a visiblement choqué, où placer la notation ? Moi, je suis assez maladroit, et donc quand j'écris au dos de la photo, la plupart du temps j'abîme l'image avec la pointe du crayon, donc je préfère mettre la notation sous l'image. Je suis d'accord que c'est pas très joli, et donc évidemment je la mets sous l'image, à un endroit qui sera caché par le passe-partout. Bon, c'est ma pratique, hein. Je ne cherche pas à l'imposer, mais je voulais simplement clarifier l'illustration. Le deuxième débat, qui lui est vraiment sur le thème de l'épisode, est de savoir s'il faut ou non donner un titre ou une légende à toutes les images. Peter a commenté en disant que sa pratique n'est pas nécessairement valable pour tous les domaines de la photographie. La discussion est trop longue pour reprendre toutes les réactions, mais on a reçu un commentaire audio de Joseph. Commentaire audio qui est lui aussi assez long, puisqu'il fait 12 minutes, mais qui contient un beau résumé du débat. Alors en voici un extrait.
Pour ma part, j'ai plutôt l'impression que Peter a raison, mais que les autres ont aussi raison, ça dépend de quoi on parle. C'est intéressant de revenir sur ce que disait dans sa précédente intervention Peter. Il distinguait plusieurs grands types de photos, le reportage et l'illustration, qui ont des logiques très différentes. Dans l'illustration, il y a une polysémie de l'image. Il prenait l'exemple de la statue du zouave qui a les pieds dans l'eau. Eh bien, ça peut vouloir dire les inondations, ça peut vouloir dire le réchauffement de la planète, mais ça peut aussi vouloir dire le tourisme. La même photo peut être utilisée dans des contextes très différents et avoir un sens complètement différent. Dans l'illustration, c'est très bien d'avoir plusieurs sens, car ça fait plus d'utilisation possible à la photo, et donc un chiffre d'affaires plus grand. Dans le reportage, la photo doit avoir un sens précis, c'est-à-dire que l'inondation a lieu tel jour, à telle heure, elle a atteint le zouave à tel niveau, et parfois on comprend bien la haine que les gens ont vis-à-vis des journalistes, qui les cantonnent dans des clichés, et c'est vrai pour les jeunes de banlieue. Pensez à cette femme, Mélanie Merlin, qui était dans le RER, qui a été photographiée. Elle était entourée de jeunes de son lycée. Elle lisait un livre tranquillement. Et Match a utilisé sa photo comme une illustration de l'insécurité. Et elle a dû aller jusqu'au tribunal pour faire valoir sa vérité, pour montrer que, contrairement à ce que semblait dire la photo, elle n'avait pas peur. Et là, c'est un des dangers, c'est quand le photojournalisme tombe dans l'illustration. Et en fait, les exemples sont très nombreux. Il suffit d'aller voir sur le blog d'André Günther, qui est très intéressant à ce titre. Et on se rend bien compte que la soi-disant sémiologie unique de l'image, des images qui parlent d'elles-mêmes, c'est un mythe. Alors, quid de l'image artistique? Car au fond, c'est à ça que tout le monde pensait quand on disait que l'image ne doit pas avoir de légende. Eh bien, je pense que là aussi, le sens n'est pas contenu dans l'image elle-même, mais seulement dans le regard que l'on porte dessus. Si bien que deux personnes peuvent avoir des visions très différentes selon leur vécu, leur culture, leurs émotions. Et que des gens aient un regard différent sur l'œuvre, qui n'est pas le regard que l'artiste avait, ben c'est pas choquant au fond. Et on peut très bien mettre une légende du type « étude numéro 43 » ou n'importe quoi d'autre, et ce n'est pas grave. Mais il faut bien se rendre compte qu'il y a plusieurs types d'images.
Visitez le blog, la conversation mérite d'être lue. Moi, elle m'a fait réfléchir. Je ne le pensais pas en publiant ce mini, mais j'ai l'impression qu'on a vraiment touché une corde sensible, avec des réactions de Gaps, Blackjack, Lionel Léger, Alain Bachulier, Photoman, Franck Doyen, Fried et Thomas Mersenne Paris. Pour terminer, quelques commentaires sur les autres épisodes. Rhino54 s'interroge sur ce qu'il perçoit être le passage systématique de nos images dans Photoshop. Ne doit-on pas, se demande-t-il, réaliser l'essentiel de la photo lors de la prise de vue? C'est un sujet de débat de fond là aussi. J'ai pas le temps de donner une vraie réponse à cette question dans ces commentaires. Je crois qu'il faudra au moins tout un épisode pour le traiter. Mais en deux mots, ce débat me rappelle un petit peu la sortie des zooms il y a longtemps. À l'époque, on disait pourquoi un zoom, en final, il suffit de se déplacer pour mieux cadrer. C'était vrai. C'est toujours vrai d'ailleurs. Un zoom ne remplace pas le fait de pouvoir se déplacer. Mais il permet parfois aussi de faire des photos qu'on n'aurait pas pu prendre autrement. Notamment parce qu'il permet d'être plus réactif, parce qu'il permet à budget égal de s'offrir un plus grand choix de focal. C'est clair que Photoshop est parfois utilisé comme une excuse pour corriger une mauvaise prise de vue. Ça, sans l'ombre d'un doute, c'est une pratique discutable. Mais il m'arrive aussi de me dire, tiens ça, je le laisse, j'irai plus vite en le corrigeant dans Photoshop. Ou encore, ça, je ne pourrais pas le changer, ça coûterait trop cher, mais en quelques minutes dans Photoshop, je peux le changer. En fait, mon raisonnement, en le simplifiant un peu, c'est de me dire qu'au moment de la prise de vue, j'ai un panel d'outils. Le choix de la focale, l'éclairage, l'utilisation d'un trépied, et Photoshop est un de ces outils. Et je ne vois pas pourquoi je devrais décider que certains de ces outils sont meilleurs ou plus appropriés à la construction d'images que d'autres. Pourquoi intrinsèquement certains seraient préférables à d'autres? Bon, c'est mon avis, hein, il n'engage que moi. Éric Collin suggère un dossier sur la calibration de toute la chaîne image, c'est un sujet sur lequel on va revenir. Lionel, et c'est un petit peu technique, souhaite que j'ajoute des targets blank aux hyperliens sur le blog. En gros, je ne touche à rien tant que la nouvelle plateforme n'est pas en place. Je ne suis pas certain que des targets blank partout soient vraiment une très bonne idée. Michel demande un conseil pratique. Il garde tous les podcasts sur son iPod, mais il n'arrive pas à les classer dans l'ordre, les années se mélangeant. Moi, je ne garde jamais que les derniers 5 épisodes d'un podcast, donc je suis bien en panne de pouvoir l'aider, mais j'espère que quelqu'un parmi vous a une idée. Patrice corrige les explications de David dans le mini carbone. Il nous explique qu'on doit parler de matériaux composites et non de carbone, puisqu'en fait, il y a de la fibre de verre, du carbone et de la résine. Il indique également que tréfilage n'est pas le terme correct, qu'il faut parler d'enroulement filamentaire. Il insiste également sur le fait que tous les procédés de mise en œuvre des matériaux composites sont utilisés dans l'industrie aéronautique, chacun en fonction de ses applications. Je termine par une parenthèse qui ne concernera que les auditeurs belges. Chioc me reproche en effet d'éviter les belgicismes, et par exemple de dire 90 au lieu de 90. J'imagine que la question est un clin d'œil, mais elle touche à un aspect qui est important pour moi, et comme ce clin d'œil revient de temps en temps, ben excusez-moi, mais je vais y répondre un peu sérieusement. Il y a beaucoup de raisons pour podcaster. On peut le faire pour s'amuser, on peut le faire parce qu'on a des choses à dire. Moi, je le vis comme un dialogue, exactement d'ailleurs comme quand j'écris un livre ou quand j'écris un article. Et donc, je le fais en réfléchissant à la personne qui va écouter, à la personne qui va lire. Et donc, quand 90% de l'audience de déclencheur ne comprend pas 90, eh bien, j'évite ce terme. C'est aussi simple que ça. Fin de la parenthèse. Il me reste à vous remercier de votre écoute. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner. S'abonner à un podcast est gratuit. Cela signifie simplement que vous recevez les nouveaux épisodes automatiquement au fur et à mesure de leur parution. Toutes les informations pour ça sont sur www.déclencheur.com. Et n'oubliez pas, tant que vous y êtes, de visiter le Wikinews et de partager sur le matériel photo. À bientôt !